Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Y a-t-il trop de fonctionnaires en France ? Faut-il supprimer des postes pour faire des économies ? Et lesquels ? Objectif du gouvernement, alléger de 40 milliards d'euros le budget 2025 qui sera présenté jeudi en Conseil des ministres. Pour l'instant, Michel Barnier reste prudent. Pas de coup de rabot, assure-t-il, dans la tribune, mais de très probables ajustements.
On ne va sans doute pas remplacer tous les fonctionnaires quand ils ne sont pas en contact avec les citoyens, quand ils partent à la retraite.
Les 5 700 000 fonctionnaires employés en France ont-ils du souci à se faire ? Un récent rapport choc de la Cour des comptes préconise de supprimer jusqu'à 100 000 emplois dans les collectivités territoriales.
Les dépenses de personnel, qui représentent un quart des dépenses des collectivités, connaissent une croissance soutenue. Les effectifs ont beaucoup augmenté. La maîtrise de leur évolution est un enjeu central.
D'autres pistes fusent. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal conseille de rallonger le temps de travail.
Dans les collectivités locales, tout le monde ne fait pas les 35 heures. Ça rapporterait 1 milliard d'euros de mettre tout le monde aux 35 heures. Ça permettrait d'éviter une partie des efforts qui sont demandés par exemple à nos retraités.
Pour faire des économies, Gérald Darmanin propose lui aussi de travailler plus et remet sur la table la question du remboursement des arrêts de travail.
Autre piste, mettre en place un deuxième jour de carence pour les arrêts maladie dans la fonction publique.
Alors faut-il réformer les 35 heures pour les fonctionnaires ou instaurer un autre jour de carence ? La France peut-elle vraiment se passer de 100 000 emplois dans la fonction publique ? Pour dépenser moins, faut-il réduire le nombre de fonctionnaires ?
Nos trois invités, Olivier Babeau, bonsoir, économiste, bonsoir. Président de l'Institut libéral Sapiens. Votre ouvrage « La tyrannie du divertissement » est paru chez Buchet-Chastel. Selon vous, il faut supprimer des postes de fonctionnaires. Cela réclame une réforme approfondie de l'État. Les strates administratives sont trop nombreuses, ajoutez-vous, et les compétences se chevauchent. À côté de vous, Mylène Jacquot, bonsoir madame, secrétaire générale de la CFDT Fonction publique. Selon vous, supprimer des postes est une approche strictement budgétaire simpliste. On a vu les conséquences négatives de la fermeture de certains services publics. Et vous ajoutez, il y a chez les usagers une exigence de services de proximité. Et Nicolas Prisset, éditorialiste à la Tribune Dimanche, je précise que vous avez réalisé une longue interview du Premier ministre Michel Barnier, c'était dimanche dernier, dans laquelle il annonçait « Nous allions tous devoir, nous tous, les Français, faire un effort ». Et selon vous, si Michel Barnier hésite à suivre les préconisations de la Cour des comptes, c'est une hésitation purement politique, il ne veut pas braquer les fonctionnaires alors que cela ne représenterait qu'une économie parmi tant d'autres. Et on démarre avec le chiffre du jour.
Oui, l'État a embauché 1 050 000 fonctionnaires de plus entre 1997 et 2022, soit une hausse de 23% en 25 ans alors que la population française augmentait dans le même temps de seulement 14%. Olivier Babeau, j'imagine que ces chiffres plaide pour ce que vous dites, c'est qu'il y a une augmentation un peu disproportionnée du nombre de fonctionnaires.
Alors, surtout qu'en fait, il faut faire la différence, vous savez, entre trois fonctions publiques.
Ouais, on va le voir, là, d'ailleurs.
Il y a la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. La fonction publique d'État, elle a, sur la période que vous mentionnez, augmenté moins que la population. Elle a augmenté de seulement 6%, la population entre 13 et 14%.
Voilà.
En revanche, la fonction publique territoriale, elle, a augmenté de 44%.
Oui.
Donc c'est surtout elle qui est visée, d'ailleurs, c'est pas par hasard.
46% même.
Voilà, 46%. Si on va jusqu'à aujourd'hui, c'est 46%.
Oui.
Donc finalement, c'est dans les territoires, c'est dans cette organisation qu'il y a des choses à trouver. Et c'est vrai que ça nous fait tout de suite penser à ce problème endémique du millefeuille territorial, des compétences, du fait qu'on a communauté de communes, départements, régions, maintenant les grandes régions, et que tout ça n'a pas toujours été extrêmement efficace dans l'organisation.
Mylène Jacquot, là, on parle selon les échos, pas de la Tribune Dimanche cette fois-ci, mais des échos, d'une suppression de 5 000 postes. C'est 0,01% de la masse des fonctionnaires. Est-ce que ça peut déséquilibrer nos services publics ? Ça paraît épsilonesque quand même.
Ah. D'abord, on n'a pas les chiffres, donc les échos les ont peut-être, mais en tout cas, nous, pour l'instant, on n'a à ce stade aucune information sur les intentions du gouvernement. Deuxièmement, 5 000 emplois, quand le Premier ministre annonce du ciblage, tout en maintenant des priorités, on ne touchera pas à l'éducation nationale, on ne touchera pas à la police, on ne touchera pas à la justice, enfin, une fois qu'on a fait le tour de tout ce à quoi il ne faudra pas toucher, 5 000, oui, ça se voit. Pour les collègues au quotidien, c'est beaucoup, puisqu'on est dans des services où il y a 10, 15, 20, 30 personnes, vous en enlevez un, deux, en fonction des départs en retraite, ça se voit tout de suite.
Donc vous avez vous dites pas touche à la fonction publique, quelle qu'elle soit.
Ah non, ce n'est pas ce qu'on dit.
Ah.
Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais en tout cas, il y a un problème de méthode.
Oui.
D'abord, un, on ne donne pas de nombre. Deux, on dit qu'au lieu de prendre les choses le jeudi soir et puis le jeudi suivant, nous présenter un budget, peut-être qu'il serait mieux de se mettre autour d'une table, de se poser un peu.
Concertation.
Voilà. Concertation, réflexion autour de l'organisation des services. Vous avez mentionné le fameux millefeuille. Ça fait
donc la réorganisation, c'est quelque chose qui peut s'entendre.
Ça fait 20 ans qu'on en parle. Mais ce n'est pas en supprimant des postes, en fonction des départs en retraite, un peu au hasard, là où ça va tomber, qu'on va résoudre les questions d'organisation des services publics, de simplification et d'amélioration. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même aussi la qualité du service aux usagers.
Nicolas Prissette, Michel Barnier a dit, lors de cet entretien qui a été, qu'on a lu dans la tribune, non à la technique du rabot.
Oui, on lui a posé,
ça veut dire quoi ?
On lui a posé deux fois la question au Premier ministre et il a insisté, pas de rabot pour la fonction publique. Alors certes, il a dans l'idée
C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire de façon violente, c'est ça ?
De diminuer le nombre de fonctionnaires, mais il ne veut pas, par exemple, on comprend qu'il ne veut pas reprendre le 1 sur 2, c'est-à-dire ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, à savoir on ne remplace pas un départ à la retraite sur deux dans la fonction publique. Ça, c'était ce qui était annoncé pour, au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ça n'avait pas été totalement réalisé, mais ce chiffre avait marqué les esprits. Mais là, on comprend, quand on discute avec le Premier ministre, qu'il veut y aller en douceur. Il a surtout pas l'intention de, en tout cas, c'est ce qu'il exprime, de braquer les fonctionnaires. Et on comprend bien que quand on commence à annoncer des économies budgétaires très importantes, eh bien, potentiellement, ça peut créer des problèmes sociaux, puisqu'il y aura des ministères, des secteurs de la fonction publique qui peuvent s'estimer injustement touchés. Et là, on comprend avec le Premier ministre qu'il essaie d'y aller en douceur, qu'il n'y aura pas forcément des objectifs très élevés, mais qu'il est aussi obligé d'envoyer des signaux. Et les fonctionnaires étant une principale dépense de l'État, il est obligé d'envoyer des signaux de bonne gestion et de gestion rigoureuse des finances publiques.
Pour se remettre à l'esprit tous ce que c'était que ce fameux dogme 1 sur 2, 2007, l'archive Nicolas Sarkozy sur les fonctionnaires.
Depuis 5 ans, c'est surtout Bercy, c'est-à-dire l'économie et les finances, qui donnaient l'exemple en matière de réduction d'effectifs dans la fonction publique. Mais désormais, chaque ministère va devoir participer à l'effort commun selon les règles rappelées hier par le président Sarkozy.
Je me suis engagé à ne pas renouveler un emploi de fonctionnaire sur deux partant à la retraite. En décidant de ne pas remplacer un départ à la retraite sur trois dès 2008, on progresse vers l'objectif, tout en se donnant le temps de réformer.
Au budget de l'an prochain sera donc inscrit un total de 22 800 réductions d'emplois dans la fonction publique. Et même si elle ne perdra que 0,8% de ses effectifs, c'est l'éducation nationale qui fera le plus gros effort avec 11 200 postes de moins. Deuxième ministère contributeur, celui de la Défense, qui reculera de 6 000 postes, après avoir été préservé au cours des années passées.
Au total, il y a eu 120 000 fonctionnaires, postes fonctionnels qui ont été supprimés, hein, essentiellement dans la fonction publique d'État. Mais Yann Jacob, vous disiez tout à l'heure, c'est pas le nombre n'est pas un tabou. C'est que là, dans ce cas-là, on n'a pas suffisamment réformé. Vous dites qu'on aurait pu avoir ces 120 000, mais il fallait réformer la fonction publique ?
La fonction publique, c'est quand même des gens qui travaillent et qui rendent des services. Donc si on raisonnait en politique publique, la politique du rabot, on en a payé les conséquences dramatiquement.
C'est 120 000
Oui, souvenez-vous de 2013 et des attentats.
C'est-à-dire ?
On s'est rendu compte qu'on avait baissé les effectifs dans la police, qu'on avait fusionné à la va-vite les services de renseignement, on s'est retrouvé quand même démunis. Enfin, l'état de l'hôpital, moi, je ne vous en parle pas. Donc, prenons... Organisons la réflexion, donnons la parole, y compris aux agents qui sont les premières victimes de l'empilement des procédures. C'est des pertes de sens au travail. Donc, le sujet, ce n'est pas celui du nombre de postes, ce n'est pas une réforme, ce n'est pas un projet de société de réduire le nombre de fonctionnaires. Prenons les priorités de politique publique, que les élus assument leurs choix, et voyons les moyens qu'il faut mettre en face. On a eu des demandes, par exemple, au cours des dernières années, des demandes fortes de présence des services publics sur les territoires. On a eu des demandes fortes de services publics qui soient en capacité de réagir au moment de la crise du Covid. Je ne parle pas seulement de l'hôpital. Regardez ce que ça a donné à l'éducation nationale, les services des impôts qui ont été mobilisés pour les services aux entreprises, parce que les usagers, ce n'est pas que des individus. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'il faudrait voir.
Est-ce qu'il ne faut pas inverser la logique ? C'est-à-dire d'abord les missions et après le nombre ?
Tout à fait d'accord avec Mme Jacquot.
parler uniquement des suppressions de poids et du nombre, en fait, c'est prendre le problème par la fin. Parce que vous avez des fonctionnaires, vous avez des agents publics pour répondre à des services que vous avez décidés, en fonction du périmètre de l'État, des missions que vous voulez assurer et de la façon dont vous voulez le faire. La vraie question, c'est ça. La conclusion, ça sera qu'il va falloir, à un moment donné, peut-être faire, en mettre moins dans certains endroits, peut-être plus ailleurs. Le drame des coupes, quand on dit qu'il ne faut pas faire le rabot, c'est que le rabot, c'est faire les coupes là où on peut les faire, mais pas où il faudrait les faire. C'est là, on fait les coupes là où c'est le plus facile, là où ça va crier le moins. D'ailleurs, à un moment donné, c'était l'armée. Alors maintenant, on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée. Mais très souvent, effectivement, ça peut créer des tensions. Ce n'est pas par hasard que les emplois publics, malheureusement, sont de moins en moins attractifs.
Mais est-ce que, par exemple, vous êtes d'accord pour le personnel administratif à l'hôpital? On dit qu'il y a 30% en Allemagne de personnel administratif à l'hôpital contre 40% en France. Alors, est-ce que pour vous,
c'est
vous
grand
dites,
chiffre, hein,
est-ce que vous dites, voilà, il y a 10%, il y a un décalage de 10%, il y a du gras.
Ce qui veut dire qu'il y a un problème, effectivement, de bureaucratie, de complexification. Mais je crois que les acteurs publics eux-mêmes, les agents publics, ne sont pas contre la simplification, mais il faut effectivement les aider. Il y a environ 9 points de plus de taux de bureaucratie, si vous voulez, par rapport à nos amis allemands. Alors, ce qui est vrai, c'est que les hôpitaux allemands sont très, très différents. Ils sont beaucoup plus concentrés, ils sont privés en grande partie, la logique est un peu différente. C'est toujours la limite des comparaisons, mais on peut dire, grosso modo, qu'on a un peu trop de bureaucratie.
Vous êtes d'accord ou pas sur ça? Qu'il y a trop de bureaucratie à l'hôpital,
par exemple. Certains soignants le déplorent, d'ailleurs, eux-mêmes.
Certains soignants, mais ce n'est pas les agents publics eux-mêmes qui inventent les procédures. On arrive rarement le matin en se demandant ce qu'on va faire pour complexifier sa journée et la rendre vraiment désagréable, parce qu'en plus, ça a quand même le don d'énerver les usagers que vous avez en face. Donc, ce n'est pas aux agents qu'il faut reprocher ça. Mais quand on donne la parole aux collègues, quand on écoute, quand on sait comment sont organisés les services, on pourrait trouver des voies de simplification. Je ne sais pas si ça se traduit à la fin par des réductions d'effectifs ou pas, mais en tout cas, ça se traduit par une meilleure utilisation des moyens et par une amélioration de la qualité du service. C'est ça qui nous intéresse. Redonner du sens au travail, reconnaître les agents dans leurs compétences, dans leur connaissance de ce qu'ils font. Et je pense qu'on apaisera un peu les débats.
Vous voulez réagir ?
Oui, parce que ça, c'est des éléments qui concernent directement l'État, c'est-à-dire le gouvernement et la gestion des administrations. Puis après, vous avez la problématique au niveau local.
Voilà.
Là, au niveau local,
on a
une structure, et vous l'évoquiez, Olivier Babot, on a une structure qui est considérable, très très lourde par rapport aux autres pays. On a la moitié des communes d'Europe en France. Donc, nécessairement, on a davantage de fonctionnaires territoriaux. Et là, la responsabilité politique, ce n'est pas celle du gouvernement, ce n'est pas celle de Michel Barnier, c'est celle des élus locaux, les maires notamment, et les présidents d'agglos, qui, eux, ont embauché beaucoup ces dernières années.
Du clientélisme politique.
Et qui, alors, ce n'est pas forcément des questions de clientélisme politique. Il y a effectivement toujours des histoires.
Les babos.
Mais il y a aussi après des questions d'habitude ou de coutume locale. Vous avez le maire, il y a une journée du maire supplémentaire de congé, par exemple. Ça existe dans certaines collectivités. Et ça fait qu'à la fin, il y a un temps de travail global, c'est ce que dit la Cour des comptes dans son dernier rapport, il y a un temps de travail global dans la fonction publique territoriale qui est inférieur aux 35 heures. Donc c'est un héritage, c'est l'héritage de l'histoire de France qui fait qu'on a toutes ces structures locales et qui, à la fin, effectivement, coûtent plus cher qu'ailleurs.
Du coup, Olivier Babot, là, le coup de rabot demandé par la Cour des comptes sur la territoriale, 100 000 postes de moins, il se justifie pour vous? Là, on n'est plus dans la question des missions.
Il y a 1,9 million de fonctionnaires.
Voilà, c'est pas absurde. Théoriquement, selon la Cour des comptes, ça ferait gagner 4 milliards par les temps qui courent. Ce serait pas mal, 4 milliards en 2030, d'ici 2030. Mmh. C'est pas tout de suite, mais ça pourrait effectivement être intéressant. La vraie question, c'est comment on arrive à changer cette logique? Parce que la même logique est à l'œuvre. Donc, si à un moment donné, vous faites des petits coups de rabot, ça va recommencer. Donc, est-ce qu'on est capable de mettre à plat le système administratif? Peut-être de mettre les collectivités locales un peu plus devant leurs responsabilités, même s'il faut doter qu'il y a un vrai débat. Les collectivités locales, elles disent, on nous a transféré énormément de compétences. Parfois, on nous transfère les compétences sans les recettes fiscales qui vont avec. Il y a aussi toujours des bisbilles sur la revalorisation des transferts. Il y a la taxe d'habitation qui avait été supprimée, souvenons-nous. Tout ça fait que les collectivités locales disent, nous, vous savez, on n'a pas le droit de présenter un budget en déficit. Les seuls investissements, enfin, la dette qu'on a, c'est de l'investissement. C'est pas du tout le cas de l'État. Donc là, il y a effectivement un vrai débat. Je crois quand même qu'il y a de la simplification. Parfois, il y a des formes de clientélisme locaux. Ça, c'est vrai, il faut le dire. C'est pas l'explication complète du phénomène,
mais c'est
un des phénomènes. Et donc, il faut faire un peu plus de pression, sans doute, sur la collectivité locale.
Mais Mylène Jacquot, on parle...
Est-ce que vous pensez que c'est en réduisant le nombre de fonctionnaires qu'on va revoir l'organisation territoriale.
Alors, c'est dans l'autre sens.
Non, mais un cas concret.
Voilà.
On a beaucoup d'intercommunalités et beaucoup de gens s'en félicitent parce que des piscines, par exemple, qui sont maintenant à l'usage de certains qui n'en avaient pas. Mais il y a des communes aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a souvent des doublons entre intercommunalités et communes. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Est-ce que vous dites, finalement, là, il y a des choses à faire?
Moi, je ne suis pas élue territoriale.
Non, donc, mais vous donc, représentez quand même cette
fonction publique. On représente tous les agents.
Vous les connaissez.
Donc, et on est aussi usagers hein, au quotidien. L'organisation des collectivités, les communes, les intercos, oui. etc., ce n'est pas les agents qui la décident, encore une fois. Il y a eu des tentatives, différentes lois, etc. Bon, c'est aux élus de voir et de prendre leurs responsabilités pour trouver une organisation qui soit la plus efficace possible. Mais il y a des vraies demandes de services publics. Les gens, ils aiment bien aller à la piscine. Les gens, quand ils partent le matin au travail, ils aiment bien pouvoir laisser leurs enfants en périscolaire pour pouvoir aller prendre leur transport, aller au boulot, etc., les récupérer si possible un peu plus tard le soir.
Ils n'aiment pas les doublons, les gens, non plus.
Ils n'aiment pas les doublons, mais en attendant, si on regarde, vous parliez du temps de travail des fonctionnaires. Travail du samedi.
On va en parler. Mais attendez, juste une question pour Nicolas Prissette à propos de ce qu'avait dit Emmanuel Macron en 2017. Il avait dit « Je m'engage à supprimer à peu près 100-120 000 postes de fonctionnaires ». Il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est un manque de courage politique, du girouettisme, la prise de conscience que ce serait trop compliqué à mettre en œuvre ?
Alors, il y a sans doute un peu de tout ça, mais c'est surtout qu'il n'en a pas eu besoin. C'est-à-dire que dans ses prévisions budgétaires, vous l'avez rappelé, il y avait une baisse du nombre de fonctionnaires, c'était une façon de contribuer à la réduction du déficit et à atteindre plus rapidement le déficit public de 3% du PIB qui laisse compter pour la fin de son premier quinquennat. On sait que ça n'a pas eu lieu, mais dans l'équation globale, il n'a pas eu besoin d'ouvrir ce front, il n'a pas eu besoin d'ouvrir ce front avec ses syndicats de fonctionnaires, il n'a pas eu besoin non plus d'aller négocier avec eux, parce que, je rappelle que on évoquait tout à l'heure l'épisode de Nicolas Sarkozy et du non-remplacement de 1 sur 2. Il faut rappeler qu'à cette époque, Nicolas Sarkozy avait négocié avec les fonctionnaires. Il leur avait dit « Je vous reverse 50% des économies réalisées ». Il y avait une forme d'intéressement à la réduction de la dépense. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, dans ses rapports de l'époque, disait que ça avait même été plus loin, que finalement, les économies attendues n'avaient jamais été à la hauteur…
Parce qu'ils avaient été trop augmentés
parce qu'en fait, cette politique n'a pas été menée jusqu'au bout.
Parce qu'il y a eu aussi les gilets jaunes, il faut bien le dire, non ?
Exactement.
Devenu un tabou que de se dire qu'il fallait réduire la fonction publique.
Pour revenir à Emmanuel Macron, effectivement, la crise des gilets jaunes a complètement mis à terre tout son schéma budgétaire et les nécessités au niveau local ont fait qu'il n'y a pas eu ces suppressions de fonctionnaires.
Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Adna le temps de travail. Comment certains fonctionnaires sont aux 32 heures ?
Oui, en tout cas, certains qui ne respecteraient pas les 35 heures. Dimanche dernier, Gabriel Attal a laissé entendre donc qu'il ne les respectait pas. Il a rappelé que mettre tout le monde aux 35 heures pourrait rapporter 1 milliard d'euros à l'État. Alors concrètement, 35 heures de travail dans la fonction publique, c'est l'équivalent de 1607 heures annuelles. Mais en réalité, en 2023, les fonctionnaires n'ont travaillé que 1582 heures selon le ministère du Travail. Alors, plusieurs explications. La première, c'est qu'il existe des dispositions particulières pour ceux qui travaillent de nuit, le dimanche, en horaire décalé ou qui effectuent des travaux pénibles et dangereux, comme par exemple le service des douanes. Ensuite, il existe des régimes dérogatoires, d'abord dans les collectivités territoriales, vous l'évoquiez tout à l'heure, Nicolas Prissette. Avant 2001, les collectivités pouvaient librement abaisser le volume horaire travaillé, et cela pour faciliter le recrutement de fonctionnaires. Certaines communes ont donc accordé des jours de congés supplémentaires, d'autres ont simplement abaissé le temps de travail, sauf que ce sont des avantages qui se sont maintenus, et cela même après le vote de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui obligeait tout le monde à repasser aux 1607 heures annuelles. C'est le cas, par exemple, des communes de Vierzon, Cherbourg, Paris et bien d'autres. Et maintenant, au niveau de la fonction publique d'État, il y a un tiers des effectifs qui ne respectent pas non plus les 35 heures. Les agents de l'éducation nationale non enseignants, les agents des centres pénitentiaires, ceux des services ultramarins, les fonctionnaires chargés de l'accueil du public dans les préfectures et les policiers. Olivier Babeau, supprimer ces régimes dérogatoires, cela équivaut à économiser 30 000 postes selon l'inspection générale des finances. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ?
Alors,
effectivement, mécaniquement, ça devrait marcher. C'est une piste, en tout cas, qui devrait être approfondie. Alors, il y a la question de la pénibilité de certains emplois. Il faut prendre en compte le travail de nuit. On parlait de la pénitentiaire.
Les éboueurs.
Les éboueurs, absolument, avec le système du fini parti. Donc, à la fois, parfois, il y a, du point de vue des collectivités locales, il y a une forme de faiblesse, d'incapacité à faire front à des acteurs qui insistent pour travailler moins.
Et puis, il y a un besoin réel. Il faut responsabiliser les collectivités territoriales sur leur masse salariale. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure.
Du point de vue du grand public, c'est difficile, sauf les exceptions dont on parlait, de justifier qu'on travaille moins de 35 heures. C'est un peu difficile de comprendre pour le citoyen, surtout quand il a l'impression qu'il y a moins de services. Donc, je crois que ce serait quelque chose d'important. Mmh. Ce qui est certain, c'est que la réponse à ce dont on parle, c'est-à-dire les économies et puis l'augmentation de l'efficacité, elle est à beaucoup de leviers. Donc, c'est un des leviers. Voilà, essayer de faire que les gens travaillent un peu plus, c'est un des leviers. Mais je crois qu'un des leviers aussi important, c'est de travailler à l'attractivité de ces emplois. Ce qui veut dire derrière, probablement, meilleures ressources humaines, meilleures perspectives de carrière, peut-être aussi réfléchir à la rémunération, bien sûr, qui est peu élevée, parce qu'en fait, on a payé la massification des fonctionnaires, en réalité, souvent, en bloquant l'augmentation du point d'indice pendant longtemps. Et c'est vrai, ça crée une forme de paupérisation de nos fonctionnaires.
Mylène Jacquot, vous reconnaissez que certains travaillent un peu moins que...
Certains travaillent un peu moins. Alors, le rapport de l'Inspection générale des finances, il a été plus que contesté, et jamais aucun gouvernement...
Oui, mais la Cour des comptes l'a repris aussi quelques années plus tard.
Enfin, si on a les données de l'INSEE sur le travail réel, dans la fonction publique de l'État, hors enseignants, mais c'est lié à l'organisation du service. Et encore, on compte que le temps devant les élèves, on ne compte pas tout le reste. On est à plus de 40 heures. Bon. Dans la fonction publique territoriale et l'hospitalière, vous êtes là. Si vous regardez le travail du samedi, le travail du dimanche, le travail du soir, le travail du week-end, sur ces quatre indicateurs, on est largement au-dessus.
Tout le monde travaille plus que le secteur. Ce sont des régimes spéciaux, ce ne sont pas les régimes
privés. Et on n'a pas les moyens de compenser financièrement. À l'hôpital, le travail de nuit, c'est quelques euros. Personne n'accepterait de travailler à ce prix-là. Donc, la compensation, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent,
mais
en tout cas, c'est du temps.
Vous êtes d'accord pour dire que les 35 heures, par exemple, ont désorganisé la fonction publique à l'hôpital ou pas, par exemple?
Enfin, c'était il y a
20 ans. Mais on dit que ça vient de là. Pour vous,
ça vient sûrement de quelque part. Mais enfin, oui, ça a désorganisé au moment où ça s'est mis en œuvre. Côté CFDT, on aurait aimé que ça soit peut-être un peu plus négocié.
Et puis, que ça a augmenté aussi le nombre d'administratifs et de soignants.
Mais depuis... l'eau a passé sous les ponts quand même. Donc, voilà. Mais la question du temps de travail, c'est encore une fois une question d'organisation et une question de compensation des contraintes fortes dans la fonction publique territoriale. Vous parliez des piscines, mais on pourrait parler des installations sportives. Généralement, les compétitions sportives, c'est le week-end. Il faut bien quelqu'un pour ouvrir le stade, fermer. Voilà. Donc, tout ça, c'est notre vie quotidienne, en fait, qui est organisé par
Nicolas
les collègues. Prissette.
On a l'impression que la politique ne se projette pas beaucoup, par exemple, l'intelligence artificielle. Et là, on se dit quand même, mais l'intelligence artificielle, est-ce que le politique va s'en emparer pour éventuellement rationaliser la fonction publique ou pas? Ou là aussi, c'est un mot tabou?
Oui, ça fait partie des choses qui sont testées au sein de l'administration, des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle et puis qui vont être mis au contact de la population pour essayer de résoudre tel ou tel problème administratif. Ça a été testé par l'ancien ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, qui en parlait comme étant un levier potentiel. Ça peut changer les choses, Olivier Babeau, ou pas?
Moi, je l'espère, et évidemment, toutes ces perspectives de technologie, moi, à petite personnelle, m'intéresse beaucoup, mais vous savez, le fameux paradoxe de Solow qui disait « les ordinateurs sont visibles partout, sauf dans les chiffres de la productivité ». C'est jamais facile d'arriver à changer ces technologies en augmentation réelle de la productivité, même si côté chatbot, par exemple, on peut espérer plein de choses.
Très bien, mais ça c'est pour l'avenir et pour un prochain débat ici même. Merci d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.